Raconter l'histoire de Chypre, c'est avant tout raconter l'histoire d'une île à la marge, au carrefour de différentes influences, mais l'île a toujours joué un rôle important dans les différentes structures politiques qui la contrôlaient. Revenons-en au tout début. L'île est peuplée dès le Paléolithique, en même temps qu'habitent à Chypre des éléphants nains. Aux alentours du Xe siècle avant notre ère, on commence à construire des structures d'habitation sophistiquées comme des puits, et on pratique l'élevage. La population va se développer autour du 8e siècle en se structurant en cités-royaumes qui vont profiter de la situation géographique de l'île à l'âge du bronze. En effet, Chypre tient son nom du grec cupros qui signifie cuivre, dont regorgeait l'île. Autour de l'an -2000, de nouvelles villes apparaissent sur la côte et se forment en nœuds commerciaux intimement liés aux grandes civilisations de l'âge du bronze, à savoir les Égyptiens, les Assyriens, les Minoens de Crète et les Mycéniens. Sa position en fait un carrefour commercial important pour les empires voisins qui s'affrontent, ainsi qu'une réserve considérable de minerais nécessaires à la production d'armes et d'outils. Cette position avantageuse perdurera jusqu'au XXe siècle d'ailleurs. Les Chypriotes à l'âge du bronze étaient un mix culturel. Ils parlaient une langue dérivée du minoen tout en suivant la religion assyrienne et en ayant leur propre alphabet. On pourrait croire que c'est à l'Antiquité que Chypre s'est hellénisée, mais en fait l'île appartenait à l'Empire perse et ne s'avançait pas trop dans les histoires du continent. C'est en fait sous Alexandre le Grand que l'île s'hellénise. Lors du siège de Tyr, dans l'actuel Liban, les rois des cités chypriotes se rendent auprès d'Alexandre pour le soutenir et ainsi s'intégrer à son empire. Les quelques royaumes chypriotes qui n'étaient pas trop d'accord le sont vite devenus, je vous laisse deviner comment. Suite à la mort de l'empereur, lors des guerres de succession, Chypre soutient Ptolémée Ier et se retrouve donc dans l'empire ptolémaïque. Vous savez, les Égyptiens grecs, dont Cléopâtre fait partie. C'est véritablement sous la dynastie ptolémaïque que la culture assyrienne disparaît de l'île et que le grec remplace le chypriote. C'est pendant la guerre civile romaine que Chypre change à nouveau de main, et en -58, elle passe sous le contrôle de la République romaine avant de devenir une province sénatoriale en 22 avant notre ère. L'île maintient son héritage grec et le renforce même avec la réforme de Constantin qui fonde Byzance et scinde l'Empire en deux entités administratives, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. C'est sous l'Empire romain que Chypre se christianise, et l'église de Chypre parvient même à assurer son indépendance au concile d'Éphèse en 431. Tout est plutôt calme pour les quelques siècles qui suivent jusqu'aux, bien sûr, croisades. En 1191, Richard Cœur de Lion débarque sur l'île pour récupérer sa sœur dont le navire s'est échoué près de Limassol. Le gouverneur de l'île, Isaac Comnène, refuse de rendre sans récompense la sœur et bim, l'île appartient au roi d'Angleterre. Il y impose une structure d'imposition, il perçoit quelques taxes, après il la vend à l'ordre du temple qui, finalement, après quelques déboires, se retrouve à perdre l'île qui passe sous le contrôle de la maison Lusignan qui établit le royaume de Chypre en 1196 et dont la capitale devient alors Nicosie. Alors les Lusignans, vous les connaissez peut-être, notamment avec Guy de Lusignan qui était un personnage important des croisades et c'est une dynastie française. Du coup, le latin devient la langue officielle à Chypre, mais est petit à petit remplacé par le français, et les orthodoxes subissent des persécutions dans l'espoir de rendre l'île catholique. C'est à cette période que les Maronites, encore importants aujourd'hui comme minorité sur l'île, s'installent à Chypre et que les structures féodales directement inspirées des royaumes latins de Terre Sainte s'imposent. Finalement, suite à des déboires qui voient l'île passer sous domination génoise, puis mamelouk et de plus en plus sous influence vénitienne, le royaume de Chypre disparaît, absorbé par la République de Venise en 1489 après une histoire de mariage forcé. La République mourrait d'envie, en effet, de mettre la main sur l'île si stratégique d'un point de vue commercial sur la route du Moyen-Orient. Les Vénitiens rénovent 2-3 trucs, cassent beaucoup de choses et construisent les fameux murs en étoile de Nicosie, encore debout aujourd'hui. Murs qui ne serviront finalement à rien puisque les Ottomans prennent la ville et donc l'île en 1571, en quelques mois même pas, alors que les murs n'étaient pas finis. Nous voici donc dans la période ottomane de Chypre, période à laquelle tout le monde revient pour expliquer rapidement le début des problèmes qui secouent encore aujourd'hui l'île. En effet, sous domination ottomane, une administration turque s'installe. Un drogman, ou traducteur, est établi pour assurer le lien avec la population grecque et gérer le registre des propriétés pour percevoir l'impôt. Il y a donc une cohabitation entre une petite population turque qui vient de s'installer petit à petit et qui dirige l'île, ainsi que la population grecque présente de longue date. Le drogman avait même le pouvoir d'interpeller directement le sultan et de critiquer ouvertement le gouverneur turc sur place. La situation se passe pas trop mal, mais en 1830, quand les empires français, britanniques et russes décident de soutenir l'indépendance de la Grèce pour faire chier la Sublime Porte, les chypriotes grecs se tournent alors vers la mère patrie et développent le concept d'énosis, qui signifie union en grec, en même temps que se développe la mégali-idea, grand rêve nationaliste de regrouper tous les Grecs dans un même pays. Toutefois, l'île n'obtient pas l'union tant espérée, et en 1878, suite à une guerre perdue par les Ottomans contre les Russes, l'île passe sous administration britannique en remerciement du soutien de l'Empire au sultan d'Istanbul. Ce n'est qu'avec la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Lausanne de 1923 que Chypre passe officiellement sous domination britannique. Et dans la décennie qui suit, les Chypriotes grecs se retrouvent à demander non seulement l'indépendance, mais aussi la concrétisation de l'énosis aux grandes dames des Chypriotes turcs, mais aussi de sa gracieuse majesté. Je vous réserve la suite pour la semaine prochaine, car l'indépendance de Chypre et les événements qui ont mené à la partition de l'île sont un gros morceau. Pour l'instant, tenons-nous-en à l'histoire qui date un peu, pour nous rendre compte de l'importance de Chypre dans les échanges entre Ouest et Est, entre l'Europe et ses voisins. Chypre n'a jamais été au cœur de l'Europe, ni même au cœur d'un empire. Elle a toujours été cette île sur le bord, qui pourtant reflète les changements majeurs dans les sociétés européennes. Tantôt nœud commercial aux nombreuses influences, tantôt terrain d'une tentative d'uniformisation de la société, mais toujours ce mélange des différentes cultures qui se partagent une histoire profondément européenne sur un tout petit espace qui subit de plein fouet les métamorphoses du monde qui l'entoure. La prochaine fois, on s'attaque à l'indépendance et aux événements pour ensuite nous pencher sur les différentes questions que Chypre nous pose à nous, Européens, une fois qu'on aura le décor bien en tête. Pour l'instant, c'est tout. Et bon baiser de chez Aphrodite.